inspirer, apprendre,
je serai à TER numéro,
s'évader, découvrir. H2O, on balade.
C'est reparti pour une balade jusqu'à 13h. H2O en balade, notre invité. On va l'accueillir dans quelques instants. Il sera avec nous jusqu'à 12h30. Et on va se rapprocher des mammifères sauvages de la région. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. À 1h20 des rendez-vous nature, 1h10, cinquième et dernier épisode de notre série de reportages consacrée à la réserve naturelle du Val-de-Loire Bourbonnais, inaugurée en 2015, que nous découvrons depuis lundi en compagnie de notre guide Daniel Mayrou. Il fait partie du Seine-Allier, le conservatoire Espace Nature d'Allier, et nous découvrirons encore une fois les richesses de ce bel espace 300 hectares protégés qui mérite toute notre attention. Rendez-vous à 1h10.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O.
Alors le printemps, c'est la saison qu'on aime et que l'on attend avec impatience. C'est la saison de la vie, du grand renouveau végétal et animal, la saison des fleurs, des champs, des stridulations, des grillons et des premières sauterelles. C'est la saison du retour de la chaleur, des jours qui rallongent, des mille et une couleurs dans les prairies, pour peu qu'on les laisse fleurir, les fleurs des prairies. Le printemps, c'est la saison des amours, mais aussi des naissances. Et là, paf ! Me voilà obligé de dire que le printemps, c'est aussi la saison de tous les dangers. C'est la saison où les oisillons se retrouvent projetés hors des nids. C'est la saison des blessures. C'est la saison où les hommes n'ont pas toujours les gestes appropriés vis-à-vis de la faune sauvage. Par ignorance, hein, c'est pas forcément pour faire mal. C'est la saison de tous les dangers pour les petits écureuils, les chauves-souris, les hérissons, renards, lérots, loirs, muscardins, chats forestiers, castors, lapins de garenne, lièvres, belettes, hermines, putois, fouines, martres, blaireaux. Ouf, j'en oublie sûrement. À l'heure où l'homme et ses activités envahissent tous les milieux au point de les détruire parfois, à l'heure où les milieux naturels s'érodent, à l'heure où l'on constate la sixième extinction de masse de la biodiversité, il est temps de réagir, d'agir, d'apprendre les bons gestes et de se sentir éco-citoyen dans tous les sens du terme, parce que ça nous concerne tous. Les associations de protection de l'environnement et d'éducation à l'environnement sont là pour vous guider, vous éclairer, vous informer, vous accompagner dans l'apprentissage de ce rôle essentiel qu'est l'éco-citoyenneté. Et aujourd'hui, nous accueillons l'une de ces associations qui fait un énorme boulot afin de venir en aide aux mammifères blessés. Nous accueillons l'association Pense Bête, centre de soins des mammifères sauvages, dont le créateur et le naturaliste Laurent Longchambon. Il est notre invité jusqu'à 12h30.
H2O. Jusqu'à 13h, redécouvrez l'Auvergne avec H2O et son invité.
Laurent Longchambon, bonjour.
Bonjour Christophe.
Soyez le bienvenu à nouveau dans cette émission. Vous êtes un habitué et on s'en réjouit. Avec vous, aujourd'hui, on va vous accueillir avec la casquette donc, de l'association Pense Bête. Une association qui est née il y a quelques années. On va replanter un petit peu le décor général. Comment est née l'idée? Comment ça s'est passé au tout début?
Oui, la rencontre de personnes, de l'envie de travailler particulièrement sur les mammifères et donner un coup de main à ces fameux éco-citoyens dont tu parlais. Lorsqu'on est amené à trouver une petite bête, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on trouve un mammifère, qu'est-ce qu'on peut faire? On avait déjà quelque chose pour les oiseaux. Et ben, l'idée, c'était de proposer un service auprès de la population concernant les mammifères sauvages, bien sûr.
Oui, il y a le centre de soins de la LPO, hein, rue de la Gantière, ici à Clermont-Ferrand. Et maintenant, il y a le centre de soins des mammifères sauvages. Et il est vrai que quand on se balade, on peut se retrouver face à un animal blessé ou en détresse et on ne sait pas toujours quel geste il faut faire. Mais ça, on expliquera ce qu'il faut faire justement entre midi et midi et demi. Mais avant cela, vous savez, on aime bien aussi découvrir nos invités. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Laurent, comment êtes-vous tombé dans la sauce environnementale et ce métier de naturaliste proche de la nature ?
Oh, on en avait déjà parlé un petit peu, en effet, il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vraiment, en effet, je pense, un parcours assez atypique. Mais c'est la curiosité, c'est les rencontres. C'est d'abord faire quelques erreurs moi-même en récupérant, en observant quelques bêtes. Et voilà, les bêtes en vivarium ou autre. La curiosité, un peu celle de l'enfant qui vient voir et puis contempler. Et puis, je pense aussi, en effet, des bonnes rencontres derrière, des mentors qui viennent à nous guider sur le comment faire et le quoi faire. D'où l'intérêt d'être dans cette démarche un peu pédagogique sur le long terme. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, se dire que la pédagogie, ça prend un peu de temps, qu'en parler, revenir sur les choses, même qui paraissent relativement simples et essentielles, eh ben, c'est important.
Et alors, vous êtes originaire de la région, Laurent ?
Complètement.
Vous pouvez nous dire d'où ?
Oui, moi j'ai grandi, j'ai fait mes premiers pas naturalistes dans le quartier de la ZUP, de la Gautière, c'est dire.
Drôle d'endroit pour une rencontre avec la nature, vous en conviendrez.
Complètement, mais on est aujourd'hui justement. C'est ça, oui, ça fait part de la nature. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est d'autant plus dans ce constat, c'est que cette nature un peu urbaine, intramuros, elle est d'autant plus prégnante que c'est aussi des fois les seuls certains endroits qu'on peut retrouver, dans lesquels on peut retrouver des opportunités à certaines bêtes de s'adapter, par défaut, bien sûr, on est bien d'accord.
Vous êtes en train de nous dire que les milieux urbains deviennent des refuges ?
Ah, je pense que c'est quelque chose qui s'avère de plus en plus. On est dans un phénomène, je pense, vraiment d'adaptation. C'est-à-dire que les animaux tendent à se rapprocher aussi de l'homme. Il y a de la sécurité, il y a de la nourriture. On a par exemple les renards qui se rapprochent en effet de plus en plus des villes parce qu'ils viennent fouiller les poubelles. Et on a des opportunités comme celle-ci, qui sont saisies par les animaux pour venir continuer leur cycle. Des fois un petit peu plus proche de l'homme, et souvent, ça permet aux gens aussi de pouvoir apprécier le spectacle de la nature aux portes de chez eux.
Ouais, alors ça peut être par choix, enfin choix entre guillemets, on va dire plutôt par opportunisme. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On peut dire aussi peut-être que parce que les environnements naturels sont érodés de plus en plus, certains animaux n'ont pas d'autre choix que de venir se réfugier là où on les agacera peut-être un peu moins.
Alors on est sur des phénomènes de quiétude, c'est-à-dire que les animaux viennent chercher un confort qu'on ne retrouve pas, et c'est bizarre, mais qu'on peut ne pas retrouver en effet à côté où il pourrait y avoir de la pression de chasse, par exemple. Mm-hmm. Et puis on est en effet sur des phénomènes d'opportunité où on a des niches écologiques, même si elles sont artificielles, qui peuvent devenir fonctionnelles relativement, parce que je le répète, on a de la protection, on a de la chaleur, on a de la nourriture à profusion. Une bête sauvage, elle n'est pas plus bête que nous autres. C'est-à-dire que s'il y a de la nourriture...
Mais pourquoi se fatiguer, finalement ?
Exactement. Et Alors, c'est des fois à leur dépens aussi, parce que la cohabitation avec l'humain n'est pas toujours simple. Mm-hmm. Mais dans certains cas, c'est, je le répète, en tout cas, un plaisir à pouvoir apprécier dans son jardin, un plaisir qu'on peut vivre aussi au jour le jour, et qui est gratuit, et qu'il suffit juste de pouvoir apprécier à sa juste mesure.
Alors, on constate même des changements de comportement, parfois, chez les animaux qui vivent en ville. Je sais, par exemple, que pour les oiseaux, on a constaté qu'ils chantaient quelques octaves plus haut que ceux qu'on trouve dans la nature, parce qu'il y a du bruit dans la ville, forcément. Est-ce qu'on constate aussi dans le comportement de certains mammifères sauvages des comportements différents par rapport à ceux qui sont urbains ?
Oh, c'est difficile à dire. Après, peut-être que j'ai pas non plus tous les éléments techniques. Sur le fond, ce qui est le plus notable, en revanche, c'est l'aspect farouche. C'est-à-dire qu'on a des comportements, mais même on le voit d'ailleurs dans la vifaune, c'est vrai qu'on a des espèces qui, en milieu naturel, sont relativement farouches et créent des principes de distance, de sécurité, mm-hmm. qui sont d'autant plus grandes qu'elles se méfient des hommes. Alors qu'en milieu urbain, c'est vrai qu'on a une certaine habitude qui se crée. Je le répète, c'est bon ou pas bon. Oui. Mais sur le fond, on peut avoir des comportements comme ceci qui sont assez marqués. Chez l'oiseau, le marquage champ est très caractéristique aussi d'un comportement essentiel pour l'oiseau en termes de contact ou autre. Mmh. Chez le mammifère, on sera probablement dans d'autres choses. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu. Peut-être que pendant la conversation, une idée me reviendra.
Alors, peut-être que le renard qui mange le reste de sandwich américain bien dégueulasse a peut-être un régime alimentaire un peu perturbé par rapport à celui qui reste dans les petits micro-mammifères. Allez savoir. Dans quelques instants, le Flash vous sera présenté par François Rosy et on vous retrouve juste après, Laurent, pour continuer à parler des mammifères sauvages.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O France Bleu.
Quand Médor n'obéit pas ou que Garfield goûte ses croquettes, ça vous chagrine. Et il ne faudrait quand même pas que ça vous gâche la vie. Rendez-vous dimanche de 9h à 10h avec les experts comportementalistes. Un coup de fil pour retrouver un animal de bonne compagnie. France Bleu Pays d'Auvergne, dimanche 9h-10h.
France Bleu, partenaire de l'Eurovision sur France 2 et France 4. Vivez l'événement le plus populaire de la chanson européenne dès le mardi 8 mai. 19 pays en compétition dans la première demi-finale le mardi 8 mai à 21h sur France 4. L'Eurovision, à la une dans vos chroniques télé et sur francebleu.fr. À suivre toute la semaine jusqu'à la finale samedi 12 mai sur France 2.
France Bleu Pays d'Auvergne, à Durtol, 102.5. When you look so good, the pain in your face doesn't show. Shooting star.
groupe U2 avec You're the best thing about me sur France Bleu Pays d'Auvergne. À bientôt midi.
France Bleu Pays d'Auvergne a sélectionné pour vous
le Printemps des Saveurs à Charroux ce week-end, ce samedi et ce dimanche. 6e édition du Printemps des Saveurs, salon placé sous le thème des vins, des produits du terroir de France et d'ailleurs, ainsi que de l'artisanat et de la gastronomie de Madagascar. C'est ça d'ailleurs. Ce samedi 18h, concert en l'église Saint-Jean-Baptiste de Charroux avec Alexis Rabé. Tout le programme est sur charroux03.fr. Il est midi, c'est l'heure du flash. Le flash de François Rosy. François, bonjour.
Bonjour Christophe.
Un projet de grand stade à Clermont-Ferrand qui fait débat.
En ce moment même, les élus de la métropole de Clermont échangent sur le lancement ou non de la première phase de travaux du stade Gabriel-Montpied. Notre reporter Olivier Vidal nous en dira plus sur les débats de cette matinée dans le journal de midi et demi.
Le site de la Saïta à Rion, racheté par le groupe Bacassier.
Il n'y avait plus d'activité sur les 20 hectares du site Riomois depuis un an. Le nouveau propriétaire Bacassier est spécialisé dans l'habillage métallique des bâtiments. 220 personnes vont être affectées sur place à l'horizon 2020, 90 employés mobiles de Bacassier et 130 créations de postes. Plus de détails sur notre site francebleu.fr.
La garde des Sceaux est en Auvergne.
Oui, Nicole Belloubet a visité la cour d'appel de Rion ce matin. Au programme, une table ronde avec les magistrats et le personnel et une rencontre des bâtonniers de la cour d'appel. Le barreau des avocats de Clermont a décidé de faire la grève totale des audiences aujourd'hui pour indiquer à la ministre son inquiétude face au projet de loi de réforme de la justice. Les cheminots également en grève avec un trafic similaire à hier pour ce vendredi en Auvergne. 5 allers-retours sur 8 entre Clermont et Paris. Il devrait y avoir 2 TER sur 5 entre Clermont et Moulins, 1 sur 4 pour Clermont-Vic-le-Comte et Clermont-Thiers. Et comme d'habitude les jours de grève, aucun train sur les autres lignes.
Venu pour témoigner après un accident, il reconnaît le responsable de cet accident dans les couloirs du commissariat.
Oui, suite à l'accident entre un scooter et une voiture mercredi soir à Clermont, un homme témoin de la scène a été convoqué par la police. Il a reconnu le conducteur de la voiture qui avait pris la fuite après la collision dans les locaux du commissariat. Selon La Montagne, l'individu de 26 ans avait été interpellé pour une autre affaire de vol avec effraction. Le témoin est formel. C'est bien cet homme qui s'est enfui après l'accident. Le pilote du scooter, âgé de 32 ans, grièvement blessé lors du choc, est toujours entre la vie et la mort. Ce soir, le Clermont Foot se déplace à Sochaux dans le cadre de la 37e journée de Ligue 2. Actuellement en 6e, les hommes de Pascal Gastien doivent l'emporter pour espérer être dans les 5 premiers et donc participer au barrage de montée en fin de saison. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45.
Et on reste dans le domaine du foot avec Marseille en finale.
Ouais, l'Olympique de Marseille s'est incliné hier soir 2-1 après prolongation à Salzbourg en Autriche. Un résultat toutefois suffisant pour se qualifier en finale de l'Europa League le 16 mai prochain à Lyon. Les Marseillais s'étaient imposés 2-0 au match aller. Ils affronteront l'équipe d'Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid, lors de cette finale. Quelle prévision météo dans la région, Christophe ?
Ben c'est plutôt doux, hein. Ça y est, ça commence à remonter au niveau du mercure. 20 degrés de maximale pour Vichy, ainsi qu'à Saint-Pourçain, Moulins, 19 pour Séry, 18 à Montmarault et 20 à Montluçon. On attend 16 degrés à Saint-Gervais-d'Auvergne, 20 à Rion, ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 19 à Thiers, 19 à Ambert, 20 pour Issoire, 14 degrés pour Le Mont-d'Or, 13 à Superbesse. En Haute-Loire, 18 pour Le Puy-en-Velay, 18 à Langeac, 19 à Brioude. Et enfin, dans le Cantal, 15 degrés pour Saint-Flour, 14 au Superluron, 19 à Aurillac et 18 à Mauriac. Les nuages sont nombreux en cette fin de matinée, mais le temps reste sec. De belles éclaircies devraient apparaître à la mi-journée, avant le retour des nuages par l'est en cours d'après-midi. Le vent de secteur le vent de secteur nord est assez fort par endroits, avec des rafales qui peuvent atteindre 60-70 km/h sur les hauteurs. Donc soyez prudents si vous êtes en montagne. Le temps devrait se calmer prochainement dans les heures qui viennent et être beaucoup plus clément dès demain, avec des températures qui devraient encore grimper au niveau du mercure.
La météo avec ENR Prime, société spécialisée dans l'isolation à 1 euro. Conditions d'éligibilité sur enrprime.fr.
Si vous êtes sur la 89, l'autoroute A89 de Bordeaux vers Lyon, dans le sens ouest-est, sachez qu'au niveau de Pulvérière, il y a un véhicule en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc soyez extrêmement prudents dans ce secteur. Ailleurs, ça se passe bien. Si vous constatez quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous nous appeler au 04 73 34 3000, puisque je vous le rappelle, nous faisons la route ensemble.
Respirez. Apprendre. S'évader. Découvrir. H2O en balade.
Que faire ? quand on se retrouve face à un mammifère sauvage blessé? C'était à cette question et à bien d'autres que nous allons répondre jusqu'à midi et demi en compagnie de notre invité Laurent Longchambon. Il est naturaliste et créateur du Centre de soins des mammifères sauvages, l'association Pense Bête. Ça, c'est un joli nom. Pense Bête. On accueille Laurent dans quelques instants. N'oubliez pas que les rendez-vous nature sont importants. Il y en a beaucoup en ce moment. On vous en donnera quelques-uns aux environs d'une heure moins 20 et à une heure moins 10. Cinquième et dernier épisode de notre série de reportages consacrée à la réserve naturelle du Val-de-Loire-Bourbonnais. On retrouvera Daniel Maillereau en rive gauche de la Loire.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O.
Alors Laurent Longchambon, l'association Pense Bête est là pour porter secours donc aux animaux sauvages blessés. La question que je posais à l'instant, que faire quand on se retrouve face à un animal en danger ou en détresse, voire blessé? Est-ce qu'il faut dans un premier temps essayer d'observer pour savoir si on a réellement affaire à un animal blessé?
Alors ça peut être déjà un premier réflexe. Mm-hmm. Sur le fond en tout cas, agir, c'est bien. Alors après, on peut agir en effet en observant, en essayant de comprendre la situation, aussi en évitant de se mettre soi-même en danger, voire d'accroître le danger pour la bête. Et puis après, avoir le réflexe, et ça je pense c'est important, à un moment ou à un autre, de prendre contact avec le centre de soins, alors pour les mammifères, pour ce qui concerne les mammifères, ou pour les oiseaux, si c'est un oiseau. Mais je pense qu'avoir ces deux réflexes-là, c'est relativement important. Et avoir en effet, comme tu dis, un esprit d'analyse sur la situation. Qu'est-ce qu'on doit faire et est-ce qu'on doit faire? Et c'est là où peut-être on va devoir...
C'est là la question, justement, parce qu'en cette période printanière, je le disais en introduction de l'émission, c'est un peu la saison de tous les dangers, en particulier pour ce qu'on appelle les juvéniles, donc les petits, les jeunes. Parfois, on peut les trouver en détresse, un peu paumés, un peu perdus, un peu en panique, parce qu'ils se retrouvent face à un humain, alors qu'en réalité, il n'y a rien de grave. Ça peut faire partie de l'apprentissage. Il peut y avoir des petits qui sortent comme ça du terrier ou du nid et qui viennent voir un petit peu ce qui se passe autour. C'est la raison pour laquelle il faut bien observer, j'imagine.
C'est ça. Alors, c'est pas toujours facile à analyser, la situation, oui. J'entends. On est beaucoup bercé par notre affect. La raison n'est pas toujours là au bon moment. Mm-hmm. Et comme tu disais en préambule, c'est qu'on est, en tout cas, dans la volonté de bien faire. C'est un syndrome qu'on peut appeler le syndrome du bon samaritain, de temps en temps. Et c'est vrai que, d'un volonté de bien faire, des fois, on n'accompagne pas toujours cette volonté par une connaissance. Et en voulant bien faire, des fois, on interagit avec quelque chose, un phénomène qui est plus naturel et qui est normal.
On a un exemple à donner par...
On a beaucoup d'exemples à donner.
En cette période, par exemple, qu'est-ce qui...
Alors, par exemple, c'est vrai que là, on va dire que depuis avril, on a un des meilleurs exemples, c'est le lièvre. En tout cas, pour ce qui concerne les petits mammifères. Mmh. Le petit lièvre, qui, la femelle va faire 2-3 levrots, et elle va les faire naître dans la prairie, à même la prairie.
Directement.
Directement, ils vont naître avec du poil, ils auront les yeux ouverts, donc ils seront prêts à se débrouiller quelque part. Et donc, elle va les poser. Elle va les placer, pas toujours ensemble. Ils vont être relativement, en revanche, bien camouflés. Grâce à leur pelage et grâce à l'emplacement qui sera idoine, utilisé par la mère et choisi par la mère pour que ce puisse être efficace. Et la mère ne viendra auprès du petit qu'une fois par jour pour allaiter.
Ah oui.
Donc, voilà, donc le petit va rester tapis au sol, sans bouger, ça pendant plusieurs jours.
On est exposé à plein de dangers alors.
Alors, oui et non. Et le plus grand des dangers, souvent, c'est justement le mouvement, l'activité. Qui peut être décelé par des prédateurs, ou alors une activité, un impact anthropique. Mais sur le fond, le camouflage, l'emplacement, et puis ce rythme de nourrissage fait qu'habituellement, les petits, même s'ils paraissent isolés et exposés, le sont dans un contexte où la nature l'a prévu, et au final, tout leur permet, normalement, tout est fait pour qu'ils puissent arriver à la phase de leur développement normal.
Ça fait partie du cycle de vie.
Et
donc, un promeneur qui détecte éventuellement, pour X raison, la présence d'un petit levrot tout seul, isolé, pourrait être tenté de se dire « Ah, la pauvre bête, il est tout seul, il faut que je le récupère, que je le mette au chaud dans un carton, que je lui donne du vin chaud pour le réchauffer. » Je dis ça parce que ça s'est produit pour un oiseau au centre de soins, la LPO. Alors qu'au contraire, il faut strictement ne rien faire et surtout pas toucher à l'animal.
Alors c'est ça, c'est-à-dire que on est dans, et là on arrive dans l'aspect impact et réaction. Et c'est vrai que dans pas mal de cas, lorsqu'on est face à cette situation, L'analyse doit nous amener des éléments et se dire, est-ce qu'on doit agir ou pas? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas agir. Mm-hmm. Et c'est là où il y a un petit peu de subtilité.
Ah oui.
Et où le message doit être relativement clair. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, en effet, on est dans le cycle naturel, même s'il y a des choses qui nous paraissent comme ça assez surprenantes, c'est pas pour autant qu'on doit interagir sur le cycle naturel. En revanche, il y a d'autres cas où ça pourrait s'y prêter. Prenons quelque chose de très concret. En effet, quand on se balade dans la prairie, on peut tomber sur des petits lièvres qui sont posés à même le sol, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est normal, c'est le cycle naturel. En revanche, si dans cette même prairie, il y a des chiens qui viennent et qui s'approchent du lièvre, et qui éventuellement sont prêts à jouer un petit peu avec, là, l'intervention de l'homme peut s'y prêter. Dans les deux cas de figure, un appel à un centre de sauvegarde permet aussi d'avoir des éléments de réponse sur quoi faire et comment faire. Est-ce qu'il y a une pertinence à agir et à devenir cet acteur protecteur de l'environnement ou pas ? Et oui. De ne pas être dans le mauvais geste qui pourrait induire quelque chose de négatif pour un animal qui est dans un cycle, je le répète, naturel, de développement naturel, et qui trouvera normalement tout ce qu'il lui faut et tout ce qui lui convient dans cet espace qui a été, dans lequel il a été posé par sa mère, en l'occurrence.
Donc la première étape, c'est être d'abord observateur, comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe dans le meilleur des cas, et puis peut-être carrément de vous appeler. Est-ce qu'il y a une ligne qui est disponible pour les promeneurs, les gens qui pourraient être face à des animaux sauvages, en détresse ou blessés? Est-ce qu'on a un numéro de téléphone d'urgence?
Bien sûr, on a un numéro de téléphone d'urgence. Pour le centre Pense Bête, c'est le 06 46 62 86 89.
Mmh. 86, c'est pas 36.
36, 89. Ah, c'est moi, dites donc. Même moi, j'ai du mal à retenir mon numéro de téléphone. Donc, je le répète, 06 46 62 36 89, pardon. Mmh. Et c'est vrai que je pense venir chercher l'information, c'est essentiel. Ouais. Après, sur le fond, on a beaucoup de démarches qui visent aussi à sensibiliser sur le comment faire une fois qu'on l'a récupéré et pourquoi on ne doit pas le garder. Donc, ce sera peut-être aussi un sujet de discussion qu'on pourra aborder par la suite.
Et bien justement, vous devriez faire de la radio, Laurent. On va faire une petite pause avec Robert Palmer, Johnny Anne Mary, et juste après, on expliquera effectivement ce qu'on doit faire face à un animal blessé. À tout de suite, Laurent.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne. H2O.
des années 80 avec Robert Palmer, Johnny and Mary sur France Bleu. À bientôt midi et quart.
Découvrir l'Auvergne. H2O, partez en balade.
Que faire si on se retrouve face à un animal en détresse, un mammifère sauvage en détresse, un animal en difficulté? C'est ce que nous voyons ce matin dans H2O en balade en compagnie de notre invité Laurent Longchambon, naturaliste et fondateur du Centre de soins des mammifères sauvages, l'association Pense Bête. Alors, par définition, les animaux sauvages, Laurent, ne sont pas faits pour être manipulés par des humains, et nous-mêmes humains, nous ne sommes pas faits pour manipuler des animaux sauvages vivants. Généralement, on leur tire dessus et on les mange. C'est beaucoup plus radical.
Manière de voir les choses.
Je caricature, bien évidemment. Donc, quand on se retrouve face à un mammifère blessé ou en détresse, quel geste doit-on faire? Une fois qu'on a décelé qu'il y avait une blessure, qu'il y avait un truc qui n'était pas normal dans le comportement, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, c'est vrai que ça va dépendre aussi de la nature de l'animal considéré. On est bien d'accord que...
Oui, les petits, des gros.
Voilà, le blaireau, le hérisson, on n'est pas exactement dans les mêmes préoccupations. Sur le fond, en règle générale, j'aurais quand même tendance à dire, déjà, se méfier. Et réfléchir pour soi-même.
Ouais.
C'est-à-dire que ça, c'est important.
Donc se protéger.
Se protéger un petit peu, parce que, je le répète, en voulant bien faire de temps en temps, on s'expose aussi, et ça serait dommage. Une fois qu'on a réfléchi sur le comment faire, donc l'idée, c'est d'arriver à mettre cette bête-là, plutôt au calme. Donc, un carton, une boîte, quelque chose dans lequel on peut le confiner.
Ça veut dire qu'il faut l'attraper avant.
Donc ça veut dire qu'il faut le saisir, l'attraper. Donc c'est vrai que pour les petites espèces, les hérissons, les écureuils, faut quand même se méfier éventuellement des morsures ou autres, ou des griffures. Mais en règle générale, une petite paire de gants, voire un petit linge qu'on met dessus pour pouvoir... Voilà, pour pouvoir le saisir et le placer dans un carton, ça peut suffire largement. L'idée, c'est d'être des fois un peu plus dans l'ingéniosité que dans l'ingénierie. Moi, c'est beaucoup mon truc, ça. Alors, on peut, avec beaucoup d'intelligence et un petit peu de perspicacité, trouver des systèmes pour éviter de se piquer et le faire dans de bonnes conditions, assez facilement.
Et ensuite, on vous appelle, on vous a appelé peut-être avant, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On vous amène directement dans les locaux de Pense Bête, l'animal? Comment ça se
alors,
passe?
Alors, où on nous amène les animaux directement? Ou alors on a des réseaux de rapatriement qui permettent, sur l'ensemble de l'Auvergne, de faire venir les animaux, parce que les gens ne peuvent pas toujours se déplacer, ce qui peut se comprendre
et
aussi.
L'Auvergne est vaste.
Et l'Auvergne est grande. Et notre aire d'action s'est élargie avec la Loire depuis peu.
Ah oui.
Donc l'Auvergne est encore plus vaste depuis.
J'imagine.
Et donc sur le fond, on a cette possibilité de faire rapatrier les animaux ou alors de les amener soi-même. Alors on peut faire tout ou une partie du chemin, ça c'est en fonction de comment est-ce qu'on va s'arranger.
On voit ça avec vous au téléphone.
Exactement, il y a un petit calage à faire.
Mais en aucun cas on s'improvise vétérinaire, fait aucune intervention médicale. Alors.
Sur le fond, j'aurais tendance à dire il vaut mieux éviter. Mais lors de l'échange téléphonique qu'on aura, que les personnes auront avec les soigneurs et douanes, on aura des informations qui seront données. C'est-à-dire, c'est vrai que dans certains cas, il faut quand même avoir des premiers réflexes. Et un des premiers réflexes, un, voire le deuxième aussi, le premier, c'est déjà le calme. Et c'est vrai que mettre son carton, sa boîte, dans un espace au noir, au calme, ça, c'est plutôt bien. Et la deuxième, c'est la chaleur. Et c'est vrai qu'on est dans une démarche à travers la chaleur qui répond souvent à des besoins physiologiques. Une bête, par exemple, qui saigne ou qui est en état de choc, a besoin de chaleur.
Et oui, parce qu'elle perd beaucoup d'énergie.
Elle perd de l'énergie. Mmh. Et juste avoir ce réflexe, déjà, c'est presque commencer à soigner. Et c'est vrai qu'on sous-estime ces premières petites actions qu'il faut mettre en œuvre, qui font déjà de nous le médecin d'urgence de la bête que l'on a récupérée. Et j'aurais tendance à dire que le fait de le récupérer est déjà quelque chose de très bien lorsque, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut la récupérer.
Ouais. On verra le cas, parce que quand on parle de mammifères sauvages blessés, on peut parler de bêtes qui sont beaucoup plus grosses que des petits hérissons ou encore des petits écureuils. On va voir le cas en particulier du petit chevreuil dans quelques instants, juste après ceci.
France Bleu vous offre aussi le meilleur du cinéma en vidéo. Découvrez Wonder.
Je sais que je ne suis pas un enfant ordinaire. J'ai déjà eu 27 opérations. Mais malgré tout, je ne ressemble pas aux autres.
Pour Auguste Pullman, la rentrée des classes est un vrai défi.
Non, tu n'es pas laid. Et tous ceux qui s'intéresseront à toi s'en rendront compte.
Mais la gentillesse peut être contagieuse.
Quand on veut voir le vrai visage des gens, il suffit de les regarder.
Trop cool!
Retrouvez Wonder avec Julia Roberts et Owen Wilson,
DVD et Blu-ray France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Open France Bleu des Terrines, c'est reparti pour une nouvelle édition. Tentez votre chance en nous proposant votre recette. Viande, poisson, légumes, fromage, champignons, tout est permis. En jeu, un robot cuiseur multifonction. Vos talents culinaires sont sans limite. Inscrivez-vous sans attendre sur francebleu.fr. L'Open France Bleu des Terrines, un événement France Bleu Pays d'Auvergne.
Le Puy-de-Dôme.
Numéro 1.
France Bleu, pays d'Auvergne.
S'évader.
Vous partez en balade. H2O.
Nous recevons aujourd'hui Laurent Longchambon. Il est naturaliste et créateur du Centre de soins des mammifères sauvages, l'association Pense Bête qui œuvre dans la région Auvergne et le département de la Loire. Alors, on a cité quelques exemples, hein, Laurent, depuis le début de cette émission. Je parlais de ces petites bêtes qui sont quand même assez volumineuses, quand même, malgré tout, même à l'état de bébé. Le faon, par exemple, petit du chevreuil, si on se retrouve face à un faon blessé, c'est pas évident de l'immobiliser, de le mettre dans un carton encore moins. Qu'est-ce qu'on fait là ?
Ouais, c'est vrai qu'il y a des phases où c'est compliqué. Alors, le faon, il y a deux problématiques. Alors, c'est en effet le récupérer lorsqu'il faut le récupérer. Oui. Et là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure.
L'observation,
parce que dans beaucoup de cas, énormément de cas, les faons sont ramenés sur les centres de soins un peu par défaut. Et justement, dans ce phénomène un peu d'ignorance gentille, hein, y a rien de péjoratif.
Parce que le faon était isolé, tout seul, les parents étaient pas loin, mais pas là.
Exactement.
Et donc alors on s'est dit, oula, il est tout seul, on le ramène au centre de soins.
Ah oui, et puis chez le faon, dans la biologie du faon, c'est très souvent comme ça. Enfin, c'est même tout le temps comme ça. La femelle va mettre un ou deux petits, elle va les isoler, pareil, dans la prairie. Et puis, en revanche, il a une particularité, c'est qu'il a, quand il crie, ça fait comme un pleur.
D'accord.
Et quand les gens passent à côté, alors là, les cœurs fondent, mon cher ami. Et donc, c'est vrai que quand on est face à ça, on se dit, il faut intervenir. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avant d'intervenir, avant de le toucher, de le déplacer, appelez bien, parce que dans 90, peut-être 95% des cas, il ne faut pas le toucher. Et c'est normal, tout se passe bien pour lui. Et c'est vrai qu'il y a d'autres cas, en effet, où il peut être blessé, tapé ou mordu par des chiens ou autre. Dans ce cas-là, intervenir, c'est plus compliqué. Le faon est relativement petit. On peut quand même, malgré tout, avec le système dont on a parlé tout à l'heure, une petite couverture, un plaid, le mettre par-dessus, tout mettre ça dans un carton. Un faon, ça rentre dans un carton relativement moyen. C'est pas très gros, hein. On a une idée du faon qui est des fois un peu...
Vous êtes en train de nous inciter à avoir un carton dans le sac à dos ou dans le coffre de la voiture en permanence, hein.
Alors, j'incite en tout cas à avoir un kit, exactement, tu as raison, un kit d'intervention dans le coffre de la voiture, que ce soit pour les oiseaux ou les mammifères, un petit carton avec un linge, un carton qui se ferme bien, ou alors une boîte de transport, c'est très très bien, ça coûte pas grand chose, ça se planque dans un fond de coffre. Et c'est
ça
bien
peut
pratique.
Être
ça peut être utile.
Et avoir des gants, donc des gants adaptés, genre des gants de déménageurs par exemple.
Alors,
ça peut être bien, ça.
Ouais, les gants de jardinage, on met ça à côté, ça peut être très très bien. Et c'est vrai que ça n'empêche pas. Qu'il y a des cas où, comme tu disais, on ne doit pas intervenir et on ne peut pas intervenir. Moi, je pense, par exemple, à des phases un peu dangereuses qui peuvent être accidentogènes. On parlait du faon, mais un chevreuil qui est tapé et qui est boisé, par exemple, c'est une bête qui ne va pas être méchante, mais qui va avoir des gestes brusques et dont les bois peuvent être dangereux.
Ouais, ça peut blesser, oui.
Complètement. Donc, et de la même manière, un blaireau, une manipulation de grosses bêtes, des fois, demande plutôt un avis et un savoir-faire d'expert. Et dans ce cas-là, l'association, en tout cas pour nous, on se déplace in situ pour agir directement et on prend le relais des découvreurs qui n'ont pas le besoin, dans ce cas-là, de récupérer réellement ou de manipuler les animaux. Et ça passe par l'échange préalable qu'on aura ensemble par le téléphone.
On évite dans la mesure du possible de donner à boire et à manger, bien évidemment.
Alors, souvent, parce que les animaux qu'on récupère sont en état de choc. Donc, en effet, on risque des fausses routes. Un mauvais choix dans l'alimentation. Après, ça peut se pondérer au regard de l'échange qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dans certains cas, des bébés récupérés, des tout-petits, pour lesquels il faut amener de la chaleur et des fois aussi une base de nourriture. Mais ça passera, au cas par cas, en fonction de l'âge, de la situation, et de la capacité des gens à pouvoir le ramener dans un délai relativement court.
D'accord. La pâtée pour chat, ça peut être utile pour des mammifères sauvages blessés, alors éventuellement
La pâtée pour chat peut être une base alimentaire. Ouais. nous, on travaille beaucoup avec quelque chose de très simple. On réfléchit toujours, qu'est-ce qu'on a dans notre frigo? De l'œuf, de la compote. L'œuf, c'est quelque chose qui passe quasiment pour tout ce qui est vivant. On soigne les reptiles, pour être honnête. Moi, il m'arrive d'intuber des tortues qui ont besoin avec de la bouillie pour poissons et de l'œuf. D'accord. Donc, l'œuf, c'est quelque chose de très transversal pour quasiment tout le vivant. Et dans tous les cas de figure, je pense qu'il faut surtout ne pas prendre les devants. Oui. Prenez d'abord le conseil à faire.
D'un spécialiste, effectivement. On peut expliquer qu'il existe un site internet qui est particulièrement bien fait. Il s'agit de Pense Bête, alors Pense P-A-N-S-E, Bête, ça se touche, avec un S, pensebête.fr, pensebête.fr, et on rappelle le numéro de téléphone qu'il faut composer si vous êtes face à un animal en détresse, 06 46 62 36 89, 06 46 62 36 89. On laisse bien évidemment toutes ces coordonnées au standard de France Bleu Pays d'Auvergne, et on les mettra en ligne sur Facebook et sur francebleu.fr. On va conclure avec ça parce que le temps passe très très vite. Laurent, en ce moment, vous avez combien de petites bêtes dans le centre de soins? Qu'est-ce que vous récoltez le plus là en ce moment?
Bon, là, on est sur l'époque, on a rentré beaucoup de bébés écureuils, et puis de lapins et lièvres. Hein, c'est la période où on commence à rentrer. Les renardeaux arrivent, donc c'est pareil, c'est des petites bêtes qu'on apprécie nous tout particulièrement parce qu'il y a...
C'est des pluches sur pattes, les renardeaux.
C'est des pluches sur pattes, et puis en plus, je pense que nous, on a vraiment un rôle de pédagogie vis-à-vis aussi de la manière dont on réfléchit la problématique des nuisibles ou des d'innuisibles en termes d'environnement. Et on se fait un plaisir aussi de pouvoir assister et peut-être quelque part faire réfléchir différemment à cette problématique-là auprès de des administrations et puis des gens qui décident ce genre de choses.
C'est votre rôle d'éco-citoyen, justement. Et toutes ces petites bêtes retrouveront à un moment ou à un autre la liberté?
Alors oui, la vocation, bien sûr, du centre de sauvegarde, des centres de soins, c'est de relâcher les animaux, et dans des conditions optimales. D'où l'intérêt, je le répète, et ça on en avait déjà parlé ensemble, c'est des fois quand on veut bien faire et quand on fait les soins à la maison, on peut imprégner, on peut impacter la viabilité, le devenir de l'espèce, de la bête qu'on a soignée. Même si on lui a donné du biberon pendant deux mois où on s'en est occupé avec du steak haché ou des trucs.
Pas le même, du coup.
C'est pas, le comportement est différent. Et puis se dire que derrière, certaines bêtes ont besoin de connaître la nourriture, d'avoir des réflexes, des instincts qui lui permettent de survivre derrière. D'où l'intérêt de repasser par les centres de soins. Et je vois que le temps court, donc il va falloir y aller.
Et ce qui est chouette, c'est de relâcher une loutre, par exemple, c'est ce que vous avez fait récemment, Laurent. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Vous revenez quand vous voulez, dès que vous avez un appel d'urgence à passer, c'était le cas aujourd'hui. Et si vous aussi, vous avez un appel d'urgence à passer, si vous trouvez un animal en danger ou en détresse, 06 46 62 36 89, le site internet de l'association Pense Bête, c'est pensebête avec un S pour bête.fr. Merci beaucoup Laurent, à bientôt.
À très bientôt Christophe.